On va commencer le café ciné avec Antoine Boutet dans à peu près tout de suite. Antoine Boutet, le réalisateur du Sud au Nord des Placés, qui a été projeté hier soir avec beaucoup de monde, est présent. Et je laisse la parole à Marie et Loan pour animer ce café.
Merci Claire.
Bien.
Bonjour. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Deuxième jour à Foix, donc après la projection hier soir dans la grande salle de l'Estile de Sud au Nord des Placés. Il y a un débat assez émouvant et assez riche. On va revenir sur le film. Peut-être est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton projet ni ton film, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte de réalisation et le sujet en partant, pourquoi pas, de notre thématique, la folie des grandeurs?
Rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier soir, c'est un projet autour du détournement de la construction de trois canaux de dérivation entre le nord et le sud de la Chine. Donc un projet sur 50 ans pour amener l'eau du sud du pays vers le nord du pays. Amener l'eau, amener une partie en tout cas, une partie de l'eau des derniers fleuves, du deuxième plus important fleuve de Chine, vers le nord du pays pour pallier à un manque qui est là depuis un siècle en fait. Donc voilà, gros projet, grosse construction, le plus gros projet de détournement d'eau au monde, 80 milliards de dollars estimé, etc., etc.
Par rapport à l'ancrage justement dans notre thématique qui va nous occuper encore toute cette journée sur la folie des grandeurs, nous c'est un film qui nous a particulièrement impacté dans le sujet que tu viens d'énoncer, mais également dans la forme que tu as utilisée pour travailler cette proposition et la mise en scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce dispositif qui est très présent notamment au début du film avec ces personnages perdus dans des immensités, comment as-tu organisé l'espace et mis en scène l'espace que tu as rencontré sur place?
C'est difficile à dire parce que c'est ma manière de filmer en général. C'est-à-dire que je m'intéresse plus aux paysages qu'aux gens, en tout cas à l'origine d'un projet. Et ça m'intéresse, il faut bien voir que sur un projet comme celui-là, je suis seul dans ce pays, je m'attaque à cette chose assez énorme qui est ce projet de dérivation. Donc je le fais d'une manière assez modeste et à ma mesure. Et donc je commence par un travail vraiment de terrain, un travail de repérage, un travail sur le paysage. Et j'essaye déjà dans un premier temps de voir si moi, en tant qu'étranger, qu'est-ce que je vois de ce projet. Voilà. Qu'est-ce que je vois de ce projet? Est-ce que je peux le comprendre en me baladant, en suivant les voies? Et à partir de là, j'observe les chantiers, j'observe la construction, je ne comprends pas spécialement le mécanisme, mais voilà, j'ai des éléments comme ça qui m'éclairent au fur et à mesure. Et ce que je vois, ce que je perçois, c'est des immensités, un paysage qui se transforme, un environnement qui est en grande partie détruit et qui va changer d'aspect. Et à l'intérieur de ces espaces, il y a ces personnes qui travaillent. Donc j'ai en tout cas, au début, la première année, dans cette histoire de repérage, il y a une distance qui est la mienne, qui fait que je suis en retrait. Donc il y a énormément de plans fixes, des plans assez éloignés. Les gens sont assez loin, donc petits, mais parce que je cadre assez large pour qu'on ait vraiment une impression du paysage, une vision du paysage assez lointaine. Et petit à petit, au fil des tournages, je vais essayer de me rapprocher des gens, et jusqu'au gros plan de la fin du film où on a des gens, vraiment, on est dans un rapport interviewé. Quoi. Mais tout ça, ça prend du temps, et j'aime bien ça, j'aime bien cette manière de faire, en tout cas, d'avancer petit à petit, de ne pas commencer directement à ces rencontres, mais on y arrive progressivement. Et cette progression correspond en fait à moi, ma propre, mon propre travail dans la durée.
une spectatrice hier notait, à juste titre, était très étonnée de, par rapport aux personnages dans des paysages, justement, à ces petits groupes d'ouvriers captés par la caméra, alors que, vu le projet pharaonique dont il est question, on s'attendait justement à une multitude de personnages. Et tu disais toi-même avoir été un petit peu surpris de ce que tu as rencontré sur place. Est-ce que tu peux réévoquer à nouveau un petit peu ces systèmes de travail où justement les ouvriers fonctionnent par petits bouts sur ce chantier ou sur ces chantiers?
C'est vrai que sur un chantier comme celui-là, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de personnes en train de travailler, en train d'œuvrer dans tous les sens, une énergie folle qui se déploie. Et je l'ai vu par moment, par endroit, mais c'est pas courant. Il y a vraiment un travail qui se fait dans la durée. Les gens sont là, comme je disais, sur plusieurs années. Ils travaillent sur des portions très, très limitées, 3 km je crois. Donc sur un ensemble qui fait 1500 km, donc ils travaillent sur 3 km, ils y restent pendant des années. Ils ne viennent pas de la région, donc ils ne connaissent pas la région. C'est souvent des équipes entières qui viennent d'autres régions en Chine, parce que c'est un contrat qui est passé avec une grosse entreprise de BTP. Donc voilà, ils amènent leurs ouvriers, ils sont là, ils y restent, le temps du travail, ils repartent ailleurs. Soit sur ce même chantier, soit sur d'autres gros chantiers ailleurs dans le pays. Donc ils n'ont pas de vision globale du projet en lui-même, en tout cas des travaux du chantier. Et ils ont chacun leur rôle. Ils travaillent avec les outils qui sont les outils qu'on trouve aujourd'hui dans tous les pays. Et donc on n'est plus dans ce rapport de comme je disais hier, où l'outil c'est la main d'œuvre, ce sont les bras. On ne construit plus aujourd'hui des chantiers comme ça avec des milliers d'ouvriers, une bonne partie va rester sur le carreau. Non, ça se passe aujourd'hui d'une manière assez classique. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y a effectivement peu de monde, mais les choses avancent, les choses se font. Voilà. Donc on s'étonnait nous-mêmes, on en parlait avec eux, ils nous disaient, regardez, on a presque fini ici, dans 6 mois c'est terminé, ça a été planifié comme ça, après on ira là. Et ce qui était intéressant dans ce... Moi je pensais naïvement qu'un chantier comme celui-là, qui est... Donc il y a deux voies qui font 1500 km, donc je pensais que c'était un petit peu comme le chemin de fer dans l'ouest américain, c'est-à-dire qu'on pose les rails, on avance, on continue comme ça. En fait pas du tout, ça se fait par portions. Et donc, il y a des portions qui sont terminées, et 3 km plus loin, rien n'est commencé. Et après, à nouveau, il y a une portion qui est en travaux. Donc, c'était intéressant, on le voit un petit peu dans le film, on a un peu tous les stades d'avancement. Ça commence par des terres qui ont été pendant des années, alors ça je ne l'ai pas vu, mais pendant des années ont été négociées et rachetées. Il y a ces drapeaux qui sont plantés, on le voit un petit peu dans le film au début. On plante les drapeaux qui servent de repères, les géomètres qui font des premiers repérages, et ensuite ils commencent à creuser le canal, et ensuite on fabrique le canal jusqu'au bout, etc. On plante des pieux pour stabiliser le sol, et aujourd'hui l'eau coule sur ce canal. Et, disons que ce projet, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est... Il est impressionnant en soi quand on y pense. Il est énorme, il est très coûteux, il aura des conséquences très importantes. Mais quand on est sur place et qu'on le voit, c'est un canal, finalement. Enfin, c'est un canal avec les dimensions d'un canal, même s'il y en a trois. On voit le canal du Midi ici, c'est un canal, c'est la même chose. Hein. Il est peut-être un petit peu plus grand, mais à peine. Donc ça, c'était quelque chose d'assez... C'est intéressant comment montrer les enjeux d'un projet comme ça, alors que visuellement, c'est pas un barrage. Voilà. C'est pas le barrage des Trois Gorges de la Vina avant. C'est pas quelque chose d'immédiatement impressionnant. Et, on est dans quelque chose qui, en plus, dans le cadre de ces canaux, une partie est souterraine. Donc une fois que les travaux sont terminés, on voit plus rien. Et on m'avait dit au début, mais... tu as fait un film sur le barrage des Trois-Gorges, oui, effectivement, mais là, c'est presque facile dans le sens où visuellement, on a tout de suite des choses. Là, tu t'attaques à quelque chose qui va être de l'ordre de l'invisible, au bout d'un certain temps, en fonction de l'époque où tu iras. Donc voilà, comment filmer l'invisible, comment montrer, comment arriver à montrer cette dimension de grands travaux à partir de ces fabrications-là, de ces chantiers. C'était quelque chose qui m'intéressait, évidemment.
Oui, moi j'avais peut-être une première question assez naïve sur le titre du film, en fait. Parce que la première fois que donc, j'ai vu le film, ou j'ai eu le nom du film, j'étais surpris en fait par le travail qu'il y avait tout au long du film sur les images, sur les plans, mais le titre était un petit peu abrupt, on va dire. Et après, j'ai appris qu'il y avait une explication. Donc, est-ce que tu peux nous faire part du choix de ce titre? Et éventuellement, est-ce que tu as hésité sur d'autres noms, d'autres titres que tu aurais pu donner à ce film?
Mais en fait, le titre, il y avait un premier titre en fait, au projet. Parce qu'il faut toujours un titre pour faire les dossiers. Voilà. Il y avait un autre titre, mais qui ne me convenait pas spécialement, et je me dis toujours, bon, voilà, on met un premier titre parce que les financeurs, ils veulent toujours un titre, etc. Bon, voilà, ça fait une base, mais au fur et à mesure, les choses évoluent. Et ce premier titre, assez vite, correspondait plus vraiment à ce qui m'intéressait. Et il y a ces quatre mots chinois qu'on entend souvent dans le film, Nan Chui Bei Diao, qui veut dire, si on le traduit littéralement, sud, haut, nord, déplacé. Mais qui, si on le traduisait dans une vraie traduction, ça serait transfert d'eau du sud au nord. Ça serait quelque chose de plus, de plus clair, hein, et de plus. Voilà. Mais j'avais pas envie de traduire comme ça. Et j'aimais bien, c'est vrai que quand je suis tombé sur c'était un article qui parlait du projet et qui le traduisait comme ça, je me suis dit, tiens, au moment où j'étais en train de tourner, là, je sentais que dans cette traduction-là française, en tout cas, il y avait quelque chose qui m'intéressait, parce qu'il y avait une sorte d'abstraction, il y avait quelque chose qui n'était pas très compréhensible. Je pense que ça correspondait aussi à l'état d'avancement où j'en étais. D'un film qui n'était pas un film abstrait, mais qui quand même n'était pas très clair non plus. Et voilà, il y avait ce sud-haut-nord, mais O-E-A-U, là, tout était là, et le déplacé, en fait, qui correspondait au déplacement de l'eau, en fait, s'accordait très bien au déplacement aussi des populations, tout ce qui avait lié au déplacement. Donc c'est resté, je m'étais dit, bon, il y en aura sûrement un autre qui va arriver. Il n'y en a pas eu.
D'accord.
Donc je l'ai gardé, je l'ai quand même. Il a fallu que je bataille un peu pour le conserver. Parce qu'on m'a dit que c'était pas très vendeur. Et finalement, je l'ai conservé.
Oui, je voulais vous demander. Il est dit dans la présentation que vous avez filmé furtivement. Et en fait, on a appris hier que vous n'avez pas demandé d'autorisation. Que d'abord, vous étiez une équipe restreinte. Vous étiez trois personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on sent un peu, c'est qu'à un moment donné, quand vous filmez de loin, c'est que quand vous voulez vous approcher, il y a un gardien, il y a des gens qui vous interdisent d'approcher. Vous dites que vous n'êtes pas réalisateur professionnel. Tout ça explique un peu aussi une autre démarche du film qui n'est pas classique. Donc, c'est pas tout à fait une question, mais c'est est-ce que vous pensez que ça donne une autre dimension? D'abord, ça vous a obligé à le faire plus longuement, vous dites, il a fallu 5 à 6 ans. Et ce rapport comme ça de presque clandestin de filmer comme ça, ça fait quoi?
Ben, disons que c'est de toute façon j'ai pas l'expérience de film en équipe avec des équipes importantes. Donc pour moi la question se pose pas trop. Quand je dis que je suis pas professionnel, c'est je le deviens, évidemment, hein. c'est une manière un peu naïve de dire les choses, mais disons que j'essaye de ne pas devenir professionnel. Voilà, c'est surtout ça, de garder un côté un petit peu artisanal dans la démarche, dans la manière de faire, et de faire attention d'un film à l'autre, à un, ne pas me répéter, et deux, toujours voilà, me mettre en situation soit de danger, soit en tout cas de remettre en cause un petit peu les systématismes que je pourrais avoir au fur et à mesure. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je pense que sur des projets comme celui-là, voilà, ce qui était important, c'est j'avais déjà fait deux films en Chine, c'est pas de refaire la même chose, et donc de trouver une manière de remettre en question ma manière de faire, et de vivre avant tout une expérience. Et plus l'expérience allait être forte, plus le film aurait intérêt. Et c'est toujours, sur chaque projet, l'envie, pour moi, avant tout, d'une expérience, c'est très égoïste, hein, c'est l'occasion aussi, quand on est cinéaste, d'arriver à financer des choses assez folles. Quand on est là-dessus, on dit, tiens, si j'arrive à financer un truc comme ça, quand même, ça serait quand même assez dingue. Et en même temps, de ne pas le garder pour soi, de le faire partager. Et puis d'essayer de gommer un petit peu, il ne s'agit pas de mon expérience sur place, ma personne découvrant ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais comment, de cette expérience personnelle, on arrive à faire un film qui va pouvoir intéresser un certain nombre de personnes, que ce soit des spécialistes, des Chinois ou des gens qui n'ont rien à voir avec la Chine. Donc c'est une manière de faire. En termes de méthode, je dirais que j'ai beaucoup recherché d'informations techniques. Je suis quasiment devenu spécialiste de ce projet sans être spécialiste de l'environnement, de l'eau, de la Chine. Mais à un moment donné, on est obligé d'avoir un maximum d'informations. On est obligé d'avoir du répondant quand on parle avec un ingénieur, quand on parle avec un ouvrier, quand on parle avec un spécialiste de l'environnement en Chine. Donc sinon, on passe pour un charlot et on est en train de faire un film qui rime à rien. Donc voilà, avoir un maximum d'informations sur les enjeux, sur là où ça se passe, etc. etc. Être très au fait au jour le jour des chantiers, de ce qui se passe, etc. Et en même temps, une fois sur le terrain, une fois qu'on est sur place, oublier tout ça, laisser ça de côté, et ce qui déstabilisait pas mal mes assistants à chaque fois, mais me concentrer sur des choses que je vois, qui me séduisent, qui m'intéressent, qui m'interpellent, sans forcément savoir pourquoi, à ce moment-là. Et je sais que ayant emmagasiné toute cette information, je ne cherche pas à la traduire spécialement à travers des choses qu'on va me raconter, mais de temps en temps, il y a des détails, il y a des petites choses comme ça qui m'interpellent, que je filme, je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que c'est quelque chose qui est important. Et voilà, et ce sont des choses qui se construisent au fur et à mesure, comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de détails dans ce film, il y a beaucoup de situations d'observation, mais par le détail, par des petites choses, en fait, arriver à traduire l'immensité de ce projet. C'est ça qui m'intéresse.
Je pense que vous y avez fortement réussi, parce que quand vous dites que c'est un film, on sent que ce film est extrêmement construit et que vous avez toute la connaissance du projet. Parce que moi, je sors de là, j'en sais plus que si j'avais eu un documentaire pédagogique avec plein de commentaires. Il n'y a pas un seul commentaire. Quelqu'un vous a posé des questions en disant qu'il n'y avait pas de carte et tout ça, mais je n'ai pas l'impression que j'en avais besoin, parce qu'on sent très bien que vous suivez le cheminement du projet. Quand on dit en souterrain, mais bien sûr, on les voit bien travailler dans ces grandes buses souterraines à un moment donné. On se demande ce qu'ils font, mais bon, ils y travaillent. Et j'ai l'impression que... ça m'a rappelé, justement, hier, vous demandez si vous avez vu les films chinois. Nous, on en a vu ici à Récente l'année dernière. Et bien, ça m'a rappelé tout à fait cette façon de filmer chinoise, avec des plans fixes, des gens qui rentrent dans le paysage ou qui en sortent, avec l'inverse de ce que font souvent des réalisateurs occidentaux quand ils vont quelque part et qui demandent à se faire expliquer les choses. Et je trouve que vous avez vraiment réussi à nous informer totalement du projet, moi je pense, contrairement à ce qu'a fait j'ai appris plein de choses et je suis sûre que si on me pose plein de questions, je saurai. En effet, on le voit que le mécanique, la machine, prend le pas sur l'homme, vous le montrez. Et on voit que les gens ne sont pas contents, mais pas contents du projet. Ils ne sont pas contents parce qu'on les a floués et que si on leur avait donné des maisons qui soient bien finies et si on leur avait donné l'argent promis, voilà. Et ce qu'ils dénoncent, c'est comment c'est fait, mais pas forcément le projet. Et je crois que tout est suggéré, en tout cas dit et démontré. Et je trouve que vraiment c'est un très bon film.
Et suggéré, oui. Après, tout n'est pas dit. Et je pense qu'il pourrait y avoir un pendant à ce film qui serait un film de grand reportage, par exemple, avec beaucoup plus d'informations techniques, qui serait aussi intéressant, voilà, mais dans un autre registre.
Il y avait une question dans la salle, madame.
Oui. Je vous ai dit hier soir tout le bien que je pensais de votre film. Et je rajoute quand même quelque chose, c'est que moi aussi, ça m'a manqué la visualisation sur la carte de la Chine des trois. De ce qui était vertical et horizontal, comme vous avez expliqué, quatre horizontaux et trois verticaux, c'est ça. Oui. C'est vrai que je me suis baladée en Chine et ça m'aurait intéressé. Mais bon, ça, c'est un détail.
Non, c'est pas un détail parce que c'est une question, c'est une remarque qu'on fait souvent. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment sur lequel j'ai beaucoup réfléchi aussi pendant et je pense que je suis pas loin de penser que c'est un regret de ma part pas suite à ces remarques hein, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé jusqu'au montage en fait. Et j'avais pas les éléments et c'est vrai qu'étant tellement dedans on a du mal à prendre du recul à un moment donné et se dire voilà, peut-être qu'une carte serait nécessaire. Et j'ai souvent cherché une manière d'intégrer cette carte, mais sans avoir une carte qui apparaît. Voilà. Je voulais qu'elle soit quelque chose de vivant, que quelqu'un me montre avec son doigt comment ça passait, etc. etc. On n'a pas eu l'occasion de le filmer, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Jusqu'à la fin, j'avais ça en tête de trouver la personne, voilà, quand ça ne s'est pas fait. Et finalement, dans le montage, au début du montage, j'avais mis beaucoup d'informations sur les images qui apparaissaient, sur l'information géographique, des informations de où on se situait, la nature de la voie, telle voie, le débit, etc. etc. Plein d'infos. Il me semblait que ça apportait des éléments concrets. Et je l'ai montré à des personnes qui m'ont dit « Mais là, t'es en train de nous embrouiller avec tout ça. » Je pense qu'on n'a pas besoin. Tu es en train de faire ça parce que peut-être que tu penses que tes images ne suffisent pas, mais les informations que tu nous donnes là n'apportent nous, ils sont presque trop précises ou trop techniques pour qu'on les comprenne. Et je me suis rendu compte que même ces informations de cette histoire de carte et de situation auraient été intéressantes. Et en même temps, ça implique qu'on connaisse déjà la géographie de la Chine. Ou la Chine, et que voilà, dire là où on est là, ça, voilà, concrètement, finalement, c'était pas si simple. Donc, au début du montage, j'avais imaginé faire un montage par les différentes voies, la voie de l'Est, la voie du Centre, la voie du Tibet, et donc, comme un triptyque, et donc, qui justifiait une présentation un peu plus précise. Et finalement, à mon avis, je me suis dit, stop. J'arrête avec ça, surtout que je ne veux pas faire un film qui focalise sur la Chine. On va faire un grand chantier, un état des lieux du chantier en général. On va être perdu, on ne va pas savoir où on est, si on est dans le nord, dans le sud, etc. Mais peut-être qu'on aura là une impression plus, voilà, une impression diffuse, mais assez concrète. Et on va perdre en information, mais voilà, peut-être qu'on gagnera en impression.
Je continue. Alors, il y a une image dans votre film qui m'a vraiment interpellée. On voit à un moment donné une sorte de maquette, de paysage, dans un immense hangar, c'est même pas un hangar.
C'est un hangar, oui.
C'est un hangar, mais enfin luxueux quand même. Et c'est vraiment pour la maquette qu'ils ont fait ce hangar. Ça montre un peu la magnificence de ce projet, c'est extraordinaire, juste pour cette maquette.
Oui, c'est-à-dire que c'est la maquette, c'est une portion du fleuve jaune.
Oui, c'est donc, ça, parce que c'est pas l'ensemble.
C'est pas directement lié au projet, mais il faut savoir que ce projet-là de dérivation qui remonte du sud au nord croise le fleuve jaune à deux endroits. Ouais. Et donc les tunnels qu'on voit, les canalisations, c'est pour passer sous le fleuve jaune. Qui est très 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 complexe en fabrication. Il ne faut pas que les eaux se mélangent. Il faut vraiment. Il y a beaucoup de choses très techniques qui ont été inventées et brevetées spécialement pour ce passage souterrain. Et donc cette maquette est très intéressante. Elle est très très grande et elle sert en fait principalement à faire des simulations de crues. et de monter des eaux. C'est pour ça qu'il y a des petites maisons renversées, etc. Donc, il m'en avait parlé comme d'une maquette extraordinaire, etc. Et ce qui est intéressant quand j'y suis allé et que je l'ai vue, c'est que la maquette, bon, on dirait, elle est un peu poussiéreuse, elle ne fonctionne pas. Donc il voulait me faire une simulation là pour le film, mais comme il me demandait, je sais plus, de 5000 euros pour jeter l'eau, je fais non, c'est bon, je vais la filmer comme ça. Mais c'est très intéressant parce que ce fleuve jaune qui manque d'eau, et c'est la raison de la voie au Tibet qui est toujours à l'étude. Si la voie au Tibet se construit, c'est pour prendre de l'eau au fleuve Yangtze et aller l'injecter 300 km plus au nord dans le fleuve jaune. Pour que le fleuve jaune, en fait, qui passe dans le nord du pays, puisse avoir de l'eau tout le long. Parce qu'il faut savoir que ce fleuve, en fait, très régulièrement n'atteint plus la mer. Donc là, c'est vraiment injecter de l'eau dans ce fleuve. Et donc cet endroit-là, c'est le bureau du fleuve jaune, enfin, un endroit très très important, où il y a en fait aussi une... mais là on ne le voit pas dans le film, il me semble. Il y a une salle, vraiment une salle de commande énorme, où en fait tout le fleuve est dessiné, et où il contrôle le fleuve du Tibet jusqu'à la mer, avec la possibilité sur des claviers, etc., des ordinateurs, d'ouvrir des vannes, d'avoir des bras secondaires qui alimentent, et ils ont en temps réel, en fait, et des caméras, et la ponction d'eau qui se fait par endroits, etc., etc. Donc c'est extrêmement sophistiqué, il y a des spécialistes du monde entier qui viennent voir cette chose-là, et ils ont été obligés de faire ça pour trouver des solutions. Voilà. Mais malgré ça, malgré la maquette, malgré tout, ça suffit pas, donc ils sont ils espèrent que cette voie du Tibet va se faire pour que ce fleuve soit alimenté.
D'accord. Et je peux encore me dire, je voulais savoir si vous avez donc fait un film sur le barrage des Trois Gorges, et je voudrais savoir si vous l'avez fait dans les mêmes conditions, avec une équipe légère, sans autorisation, sans presque de fond.
Oui. Enfin, c'était pire, parce que c'était... là, c'était vraiment... Je l'avais fait seul. De temps en temps, j'avais pu me payer un assistant local, mais pas tout le temps. Et donc, ça a été vraiment quasiment un film autoproduit. Voilà. C'était en 2005. 2005-2006. Donc, le projet du barrage n'était pas terminé. C'était à mi-chemin, en fait.
On parle de folie des grandeurs parce que le film est une folie, mais ce film est une folie également. Images, son, montage, vous avez les trois postes. 6 mois de montage, vous me disiez hier. 50 de...
Un an.
Un an de montage. Vous anticipiez une telle temporalité au début du projet?
Je savais que le montage serait long, que le tournage serait long. Aussi long, non. Non, c'est ce que je disais, ça a été surtout une histoire de... avant tout une histoire de financement, c'est toujours le même problème. On a eu pas mal de chance au démarrage, c'est-à-dire qu'en termes de repérage, on a été pas mal aidés. Par contre, quand il s'agit de rentrer en production, l'argent n'arrivait plus, on n'a pas eu de télé derrière, et beaucoup de mal à le financer. C'était aussi une période il y a quelques années où il y a eu quand même une baisse et une coupe des financements. Il y a eu un resserrement au niveau des télés et même des financements en général par rapport à ce type de film qu'on appelle bêtement documentaire de création. Qui d'un coup n'est pas assez pédagogique, n'est pas assez didactique, etc., etc. Donc on m'a reproché, les gens me disaient, vos images sont très belles, votre projet est très ambitieux, mais vous comprenez, notre public, il lui faut une voix off, notre public, il faut qu'on suive un personnage, donc si vous suivez un paysan, là on peut en discuter, si vous restez dans un village, là précisément, et que vous racontez la vie du village à travers ça, là d'un coup ça peut devenir intéressant, parce que notre public, il ne comprend pas autrement. Quoi. Il disait pas il est bête, mais bon, ça se résume un peu à ça. Quoi. Et moi, c'est vrai que j'en avais marre à un moment donné, et qu'on me demandait toujours, mais quels sont vos personnages, quels sont vos personnages. Donc j'avais fini par écrire un texte, et les personnages, c'est très simple, voilà, il y en a 4 ou 5, il y aura le sable, le vent, l'eau et la poussière. Voilà. Ce sont les 4 personnages que je vais suivre. Et à partir de là, il y aura sûrement d'autres personnages, il y aura sûrement des dissidents, il y aura sûrement des responsables, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui je ne les ai pas, donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui il y aura un tel, je ne vais pas vous faire croire. Tu vois. J'espère qu'ils seront là, et je pensais qu'ils allaient être là, mais voilà. En même temps, je ne pars pas de ça. Voilà. Je pars de la matière. Je pars effectivement du sable, je pars de la poussière, des chantiers, des travaux. Et c'est cette transformation de la matière qui m'intéresse, parce que le film, c'est aussi là-dessus. La matière se transforme, l'eau est utilisée, le sable est utilisé, etc., etc. Donc cette transformation de la matière correspond bien à ce qui se passe en Chine. On dompte les fleuves, voilà, c'est une histoire politique aussi, et qui date de l'Antiquité. Donc, mais c'est ce point de départ qui m'intéresse. Et à partir de là, oui, on aura des gens, on aura... Voilà, rassurez-vous, mais bon, ça n'a pas suffi.
Une dernière question, peut-être, pour clôturer ce café ciné, monsieur.
Il va déjà y avoir un avis sur juste ce que vous venez de dire. Bravo. C'est-à-dire que vous avez choisi un chemin pour informer sur ce qui se passe là-bas, en dehors des chemins battus. J'ai moi-même, bon, je fais partie de plusieurs associations, et je m'occupe de l'eau en particulier, qui commence à manquer en Afrique équatoriale. Cause de la déforestation. C'est pas le sujet du débat. Mais quand je suis passé sur des interviews radio ou quoi que ce soit, on a orienté la façon dont j'allais expliquer le futur. Et vous, vous vous êtes libéré de ça. Chapeau, je sais ce que c'est que de rentrer dans les lignes correctes, parce que justement, on ne dit pas franchement au public qu'il est bête et qu'il ne peut pas comprendre, mais on vous suggère. Il ne faut pas faire compliqué. Je reviens donc au fond du problème, le problème technique, puisque l'eau, c'était mon métier. Et on s'aperçoit que quand on fait du gigantisme, c'est pas le problème qui est multiplié par 10, c'est le gigantisme qui fait naître d'autres problèmes qui n'existent pas quand on reste à l'échelle 1. Et ma question est la suivante, elle arrive. Je ne peux pas croire que, compte tenu des propos qui ont été tenus par l'ingénieur El Capo Di Capi, vous nous avez expliqué le haut de la pyramide, ce monsieur est parfaitement conscient, l'idée est simple, elle est expliquée d'une façon très très simple, tu veux de l'eau, on va t'en donner. Déjà, il y a une comparaison qu'il faut donner, 44 milliards de mètres cubes, c'est quand même un cube qui fait un petit peu plus de 3 km de côté. C'est monstrueux. C'est déjà une première chose qui ramène à la réalité en dehors des chiffres. Je ne peux pas ignorer non plus qu'au niveau politique, ils ne sont pas conscients, d'ailleurs vous nous avez expliqué que les 350 derniers kilomètres, l'unité de temps, c'est la décade. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés techniques, c'est ce qui apparaît déjà au premier plan sur ce côté gigantesque. Et d'autre part, commence à se poser, quand je dis « on », c'est les techniciens d'une part, mais également les politiques qui ne doivent pas ignorer, ce gigantisme va avoir un temps de retour sur l'environnement. Il y a des exemples, il y a la mer d'Aral, il y a le barrage de la Soie, il y a... commence à se poser la question sur l'exploitation des gaz de schiste au Canada, l'impact qu'il y a sur les nappes souterraines. Donc, ils ne sont pas sans ignorer que, à moyen terme, même pas à long terme, à moyen terme, il va y avoir des retours sur ce gigantisme. On ne déplace pas des milliards de mètres cubes d'eau sans qu'il y ait un impact sur l'environnement. On pique l'eau quelque part, elle va manquer ailleurs, surtout sur de telles quantités. Est-ce que, j'en fais après ce préambule à la question, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés, la Chine, puisque vous avez dit, tout le monde a un petit morceau de Chine sur soi, que ce soit dans son portable, sur son téléphone, etc. Et ils ont eu, il n'y a pas encore si longtemps, un taux de croissance à 2 chiffres. C'est merveilleux. C'est merveilleux jusqu'à... Hein, je ne parlerai pas de la bourse de Shanghai en ce moment. Il y a un ralenti. Ça ne peut pas continuer. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas, au niveau politique et technique, conscients que ce type de gigantisme va, à court terme, à un échec. L'idée est bonne au départ, mais le fait de faire de l'énorme, c'est pas pour montrer ses biceps, c'est parce qu'il y a une demande telle, qu'on est obligé d'avoir des conduites de 10-12 mètres de diamètre, c'est énorme. Donc, est-ce qu'ils le font par nécessité, en ralentissant petit à petit la vapeur, comme on dit, parce qu'ils se rendent compte qu'on va se casser la figure à dévier des faibles avec de tels débits, ça ne va pas marcher trop longtemps, ce truc-là. Donc, vous avez eu des difficultés. On vous a posé la question hier soir, est-ce que vous avez eu des officiels? Le seul que vous avez eu, c'est celui qui parle au départ, costume, cravate, etc. Est-ce que vous avez eu parmi les petits, est-ce que vous avez peut-être censuré une prise de conscience de ceux qui sont justement en train de travailler, parce qu'il n'y a pas uniquement ceux qui tiennent la pelle et qui tirent le câble, il y a également de la matière grise qui tourne sur le terrain. Et est-ce que vous avez l'occasion d'en parler avec ces gens-là sur le cette croissance absurde?
J'ai compté qu'on est à 5 questions à peu près.
Non, la dernière, c'est la prise de conscience par ceux qui bossent, qu'ils sont condamnés à croître.
Tu as raison.
Pour continuer d'exister. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça?
On va laisser Antoine prendre le temps de répondre. Merci.
Juste, j'ai discuté avec des gens en dessous de cet ingénieur, mais aucun ne me dira que le projet n'est pas bon. Aucun ne me donnera son avis personnel. Parce que je suis à l'étranger. Même en privé. On ne se connaît pas assez. Enfin, je veux dire, il faudrait que je passe des années là-bas. Il faudrait qu'il y ait vraiment une intimité telle, que je sois moi-même scientifique. Jamais ils me diront réellement s'ils ont des doutes là-dessus. Après, ceux qui m'en parlent, ce sont plus des gens qui travaillent dans l'environnement. Mais ces gens-là sont aussi des gens qui sont persécutés, en fait, d'une certaine manière. Donc, c'est très difficile. Après, il y a des critiques, hein. Le projet, il y a quand même des critiques qu'on peut trouver sur Internet, alors en chinois, mais il y a des choses qui ont été publiées, il y a des doutes, il y a des... Voilà. Mais le projet, c'est très difficile à percevoir, en fait, quel est la réelle motivation derrière ce projet-là. Est-ce que c'est vraiment une nécessité absolue? Est-ce que c'est quelque chose qui traîne depuis 50 ans et d'un coup, un grand projet va unifier le pays, au même titre qu'il y a eu des projets comme ça, il y en a eu un certain nombre. Hein. Et ça donne du boulot. Hein. Dans le BTP, on injecte de l'argent, on fait travailler le pays, on fait tourner. Pendant ce temps-là, voilà, il y a moins de manifestations, etc. Il y a un réel besoin. En même temps, entre le moment où le projet est lancé et le moment où il se fait, on se rend compte que ça ne va pas suffire, il faut trouver d'autres solutions. Il y a une course contre la montre, comme je disais hier, et on sent que ce n'est pas sûr qu'on puisse aujourd'hui retourner la vapeur.
C'est terriblement énergivore.
Terriblement. Non, tout à fait.
Pour que ça recoupe dans une autre vallée,
non, mais tout à fait.
Sachant qu'ils font de l'énergie.
Mais vous savez, le
t'as pas le micro.
Alors, justement, c'est intéressant parce que autant la voie du centre qui part du barrage qu'on voit dans le film, elle descend par gravitation sur 1500 km. Donc, voilà, il n'y a pas de pompage, etc. Par contre, ce qui n'a pas été calculé encore, ou en tout cas officiellement annoncé, c'est l'eau qui reste au bout. Hein. Parce que entre l'évaporation, entre les fuites, etc., ce sera intéressant de savoir ce qui part et ce qui arrive. Et puis la qualité de l'eau à l'arrivée aussi. Mais par contre, sur la voie qui reprend l'ancien canal, et comme je disais hier, l'ancien canal descendant du nord au sud et là qui doit remonter avec système de pompage, etc., ce sont il y a 7, 8, je ne me souviens plus, peut-être plus, stations de pompage qui sont monstrueuses. On en voit une dans le film au début. Ils sont en train de elle n'est pas encore ouverte, il y a une bâche bleue par-dessus qu'ils enlèvent. C'est monstrueux. Et donc le coût. En fait, pour pomper l'eau et l'amener au-dessus, est énorme, à tel point que cette voie-là arrive au sud, dans la région au sud de Pékin et dans la municipalité de Tianjin, qui est aussi une très très grosse ville dans le sud de Pékin. Et le gouverneur, le maire, le je sais pas quoi, enfin, le grand pont de la ville, à un moment donné, déclarait officiellement qu'il ne voulait pas de cette eau. Il n'en voulait pas. Elle était trop chère. Voilà, elle serait trop chère, il n'en voulait pas. Et lui, il était en train d'investir dans la désalinisation. Voilà. Alors voilà, ça peut paraître vertueux comme ça, en disant, voilà, le truc d'avenir, aujourd'hui, la désalinisation n'est pas rentable, mais bon, au moins dans 10 ans, dans 20 ans, elle le sera, alors que ce canal-là, ce projet, coûte énormément aujourd'hui, mais dans 10 ans, il coûtera encore plus en rénovation, en maintenance, etc. Après, ce que j'ai appris par une personne chinoise qui connaissait très bien la situation, elle m'a dit, mais, tu sais, ce maire en question, il peut paraître comme ça, du bon côté vertueux, mais c'est juste parce qu'il a mis pas mal de billes dans la désalinisation et les usines lui appartiennent, grosso modo.
Ça, c'est
juste.
Voilà. On ne peut pas tout mettre dans un film. Hein. Voilà. Il y a des sous-entendus, des cachets. Peut-être pour conclure ce débat et cette prise de parole, on parlait beaucoup de forme et d'intelligence aussi des spectateurs. Moi, je tiens à dire que hier soir, dans la salle, les spectateurs étaient loin d'être bêtes et ont réceptionné avec énormément d'émotion et de vivacité votre proposition. Qu'en est-il de la suite des aventures de ce film? Est-ce qu'il continue à exister encore en salle? Où est-ce qu'on peut éventuellement le retrouver si les auditeurs nous entendent?
Alors le film, il est sorti en salle fin janvier, donc ça fait maintenant 5 mois à peu près. Il continue, disons que la sortie salle en elle-même est terminée, mais il y a régulièrement encore des salles qui le programment. C'est souvent lié à des événements, à des festivals, soit sur l'environnement, soit sur les droits de l'homme, soit sur une association qui s'en empare parce que ça l'intéresse à une date donnée. Donc il y a encore des dates, soit dans les festivals, soit à la rentrée. Il y a une tournée en Normandie, je ne sais plus. Enfin, ça continue un petit peu, ça va continuer sur une année. C'est un film qui, en fait, par le distributeur, a été prévu comme un film qui va marcher aussi dans la durée. Parce que c'est vraiment le réseau de bouche à oreille qui fait que les gens en parlent et petit à petit on arrive à faire continuer. Puis on va normalement on essaie de sortir un DVD cet automne. Alors évidemment le format DVD n'est pas adapté à ce type de film, mais bon, on va le faire quand même. Et je pense qu'on mettra dans le DVD le premier film chinois dont on parlait sur Barrage des Trois Gorges.
Voilà. Vous pouvez nous rappeler le titre aussi?
Zone Initial Dilution. Un titre encore moins simple que celui-là.
Quel est le nom du distributeur pose une auditrice.
Le distributeur, c'est Zogma. Zogma Film.
Zogma Film qui a distribué également le film de Denis Rebrandt.
De Denis Rebrandt,
oui. En DVD. Ouais.
Et également 5 caméras brisées.
Et 5 caméras brisées qui est passé aussi avant-hier soir à Résistance. Merci beaucoup Antoine pour cette prise de parole. Longue vie encore à Sud au Nord déplacé, qui est un film qui a une belle vie en salle et dont la vie n'est pas terminée. On va mettre un terme à ce café ciné.